journal avec vous, Laurence Thomas. Bonjour.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, la peur d'une rentrée sous Covid à l'heure des retours de vacances. Un témoignage édifiant dans un instant. Les autres titres, Laurence.
Quelles seront les mesures sanitaires décidées pour les entreprises? Sans doute le masque obligatoire sur son lieu de travail. Fini le jackpot pour les communes où sont installés des casinos. Les conséquences du confinement vont peser lourd sur les finances locales. Et puis une chaîne 100% football lancée ce lundi à quelques jours du coup d'envoi de la Ligue 1.
Les invités de la matinale à 7h50, Laurent Geoffrin, l'ancien directeur de la rédaction de Libération, qui viendra nous présenter les premières orientations de son nouveau parti politique, les engager avec un objectif, rassembler la gauche. Et puis dans le grand entretien, un livre, Nous n'étions pas prêts, ce sont les confidences d'un médecin face à la crise du coronavirus. L'infectiologue Gilles Pialoux sera avec nous à partir de 8h20. Posez-lui dès maintenant vos questions au 01 45 24 7000 ou sur l'appli franceinter.fr.
France Inter.
Plus de 3300 cas de coronavirus supplémentaires en 24 heures du jamais vu depuis le déconfinement, alors que les 15-44 ans, pardon, sont pointés du doigt pour relâchement. Évoquons ce matin l'histoire banale mais parlante de Frédéric, 38 ans, infecté fin juillet. Frédéric n'était pas imprudent, bien au contraire. Il était vigilant sur les mesures barrières, mais sa contamination nous montre qu'il suffit d'une négligence pour passer plusieurs semaines sous la couette, à genoux, comme il dit. Car son Covid n'avait rien d'une grippette, Véronique Julia.
Frédéric travaille dans le secteur du handicap. Très informé sur les gestes barrières et les risques inhérents à l'infection, il se décrit précautionneux. Après le confinement, il a voulu profiter de la vie, bien sûr, mais en restant prudent, il a suffi d'une fois. Le 14 juillet, sa compagne se rend à un anniversaire. 6 jours plus tard, elle a des premiers symptômes. Frédéric ressent les mêmes dès le lendemain. Il est testé positif dans la foulée.
On baisse un peu la garde et puis on se fait avoir tout bêtement, quoi. Il y a eu une réunion familiale avec la proximité, des enfants en bas âge qui ne présentaient aucun symptôme. Visible. Et voilà, mais on ne sait pas vraiment par qui c'est arrivé en fait.
Un anniversaire de 10 personnes qui fera en tout, avec les cas contacts, une quinzaine de contaminés. Avant de se savoir malade, Frédéric est allé voir ses parents âgés. Heureusement, il a fait attention.
On a mangé dehors, le minimum du contact physique, vraiment. Et par chance, ils n'ont pas été contaminés.
C'est peut-être ça qui les a protégés.
Ouais, complètement, c'est même sûr.
Le tracing a été efficace, les contacts mis à l'isolement. 3 semaines plus tard, Frédéric, qui était jusque-là en pleine santé, se décrit malade comme jamais.
C'est une fatigue comme jamais j'ai ressenti, des maux de tête comme jamais j'ai ressenti. Le sommeil ne vous répare en rien. C'est 15 jours où vous êtes à genoux, quoi. J'ai vraiment des coups de pompe en journée, une gêne respiratoire qui est encore présente. C'est pas une grippette, quoi.
Pour Frédéric, la reprise ne sera pas immédiate. Il espère retravailler début septembre, mais sans être sûr encore qu'il en sera physiquement capable.
Véronique Julia.
Le gouvernement présentera demain aux partenaires sociaux des règles sanitaires destinées aux entreprises.
Le port du masque devrait devenir sans grande surprise obligatoire dans certaines situations, sur le lieu de travail, dans les couloirs, dans les salles de réunion notamment, car selon les dernières données officielles, la plupart des nouvelles infections se font dans l'entreprise. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, doit s'entretenir avec le Haut Conseil de la Santé sur la question des open space. François Omeril, secrétaire général de la CFE-CGC, dénonce le discours contradictoire des autorités. Il est au téléphone avec Maxime Debs.
Cette histoire de masque, c'est quand même beaucoup de la communication, il faut avoir de la mémoire. Quand nous réclamions d'avoir des masques au mois d'avril, le gouvernement nous disait, j'en ai l'exacte mémoire, les masques, vous n'en avez pas besoin, ça n'est pas utile. Enfin, il faut regarder ce que disait la porte-parole du gouvernement, qui disait, mais moi le masque, je ne sais même pas le mettre, c'est trop compliqué, c'est trop technique. Monsieur Pietraszewski nous disait, la doctrine du gouvernement, c'est la doctrine de l'OMS, le masque est réservé pour les soignants et pour les gens malades. Donc aujourd'hui, la doctrine, elle a changé, parfait, moi je veux bien m'y soumettre, je fais confiance aux gens qui conçoivent, qui élaborent la doctrine sanitaire. Mais nous, on est capable de la comprendre et de l'interpréter. Il faut nous faire confiance dans les entreprises. Je trouve qu'on a été beaucoup résilients, beaucoup conciliants. Et j'aimerais bien que de son côté, le gouvernement comprenne aussi que sa place n'est pas à l'endroit d'imposer à toutes les entreprises de manière uniforme des mesures qui ne seront pas comprises et qui seront très très difficiles à mettre en œuvre.
François Omeril, le secrétaire général de la CFE-CGC. Dans les casinos, rien ne va plus, l'ambiance et le jeu pâtissent des mesures sanitaires. Dans les établissements, on s'inquiète d'une fréquentation toujours à la baisse et conséquence, le confinement puis les restrictions sanitaires pèsent lourd désormais sur l'économie locale. Illustration dans la petite station thermale de Barbazan en Haute-Garonne avec le reportage de Yann Gallic.
Pour un village de 500 habitants comme Barbazan, le casino est une aubaine. L'établissement emploie une trentaine de salariés et surtout il reverse chaque année à la commune entre 250 000 et 300 000 euros. Les recettes liées au jeu représentent 70% du budget municipal. Mais avec la fermeture du casino pendant le confinement, il y aura un gros manque à gagner cette année, explique Michel Strader, la maire de Barbazan.
Là, on est déjà sur 4 mois, on est à environ moins 60 000 euros.
Le casino a rouvert il y a 3 mois, mais à cause de la crise sanitaire, il y a moins de clients, donc moins d'argent. La commune va devoir renoncer à certains investissements.
Et je dis qu'on a une double peine. Bon, on a la baisse des revenus du casino, mais en même temps, on a une augmentation des dépenses liées au Covid. Les masques, j'ai dû prendre du personnel supplémentaire pour faire l'entretien des locaux. Donc du coup, on a fait un report d'investissement. Nous devions installer la climatisation à l'école, nous devions acheter un véhicule. Donc effectivement, on est obligé de faire des choix.
Si la situation financière de la commune continue à se dégrader, la maire de Barbazan envisage même de réduire le temps de travail de ses employés municipaux pour faire des économies.
Yann Gallic, le parc du Puy du Fou n'a bénéficié d'aucun passe-droit, c'est ce qu'affirme la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ce matin dans le journal Le Parisien. Malgré les restrictions liées au Covid-19, le parc à thème a pu accueillir ce week-end jusqu'à 9000 personnes sur autorisation du préfet. Une dérogation exceptionnelle alors que la réouverture du parc sur fond d'amitié entre le chef de l'État et Philippe de Villiers avait déjà créé la polémique en juin dernier. Face à l'émotion suscitée devant ses largesses refusées à d'autres, l'Élysée a démenti toute nouvelle intervention. Emmanuel Macron s'est même dit surpris hier par la décision de la préfecture de Vendée. La pandémie à l'étranger, l'Italie, qui connaît un rebond des infections, referme ses discothèques en plein air et ordonne le port du masque de 18h à 6h du matin. Et puis les élections législatives sont reportées de 4 semaines en Nouvelle-Zélande. Saluée pour sa gestion de la crise, la Nouvelle-Zélande avait jusqu'alors réussi l'exploit de n'enregistrer aucun nouveau cas pendant 102 jours avant de connaître, elle aussi depuis début août, une reprise des contaminations. En Biélorussie, un appel à la grève nationale a été lancé hier sur les réseaux sociaux après l'un des plus grands rassemblements d'opposition de son histoire. Emmanuel Macron appelle d'ailleurs l'Union européenne à continuer de se mobiliser aux côtés des manifestants contre le régime du président Loukachenko. Des dizaines de milliers de personnes étaient donc réunies partout dans le pays pour exiger le départ du président biélorusse au pouvoir depuis 26 ans. Antoine Balandra a pu joindre une manifestante à Mogulov, la plus grande ville de l'est du pays.
C'est au pied de la statue de Lénine, en plein centre-ville, que les manifestants se sont rassemblés. Parmi eux, Natacha, 34 ans, et mère de 2 enfants.
Tu ne peux même pas t'imaginer l'atmosphère. C'était la fête, comme au Nouvel An. Je n'ai jamais vu autant de visages souriants. Des drapeaux blancs, rouges, blancs partout. Des gens qui s'offrent des fleurs, des ballons, une ambiance amicale. Bref, une vraie fête.
La ville très industrielle de Mogilov, 500 000 habitants, s'est particulièrement mobilisée contre le président Loukachenko. Des dizaines de milliers d'habitants sont venus crier « Oukhadi » part au président en poste depuis maintenant 26 ans.
L'espoir en premier lieu, c'est d'avoir de nouvelles élections et d'avoir ensuite un gouvernement réellement choisi par le peuple.
Et même à Mogilov, ville pourtant située à une petite centaine de kilomètres de la frontière russe, la crainte d'une intervention de la Russie était finalement la seule inquiétude venue gâcher un peu ce jour de fête.
7h09, la suite du journal, Laurence Thomas.
L'ex-adjoint à la mairie de Paris, Christophe Girard, poussé à la démission pour ses liens avec l'écrivain controversé Gabriel Matzneff, est accusé d'abus sexuels dans un article du New York Times. Cette fois, ce n'est pas seulement une proximité douteuse dont il est question, mais d'une accusation directe de pédophilie. Le New York Times a publié un long témoignage d'Anis Maïd, un homme d'origine algérienne de 46 ans qui raconte avoir été abusé sexuellement par Christophe Girard alors qu'il avait 16 ans et ce durant plusieurs années. L'avocate de Christophe Girard va poursuivre le New York Times pour dénonciation calomnieuse.
C'est une semaine cruciale qui s'ouvre dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin.
Pendant 4 jours à partir de demain, la juge va entendre à nouveau Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret. C'est elle qui a fait tomber l'alibi de celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes. En mars, ce dernier a avoué avoir enlevé la fillette en 2003. Des fouilles ont été menées fin juin dans les Ardennes, mais le corps d'Estelle Mouzin n'a toujours pas été retrouvé. Corinne Audouin.
En novembre dernier, Monique Olivier affirme que ce n'est pas Michel Fourniret qui a passé un coup de téléphone depuis leur domicile de Belgique le jour de la disparition d'Estelle en Seine-et-Marne. C'est elle qui a téléphoné. L'alibi de Michel Fourniret s'effondre. Dans la foulée, en mars, le tueur en série passe aux aveux. Il dit avoir tué Estelle, mais ne se souvient plus des circonstances. Fin juin, des fouilles sont menées dans les Ardennes, sans résultat. Monique Olivier peut-elle aider à retrouver le corps d'Estelle? Selon son avocat Richard Delgenès, elle fera tout pour apporter son concours.
Toutes les avancées notables dans l'enquête et même la découverte de tous les faits criminels ont été du fait de Monique Olivier. Je pense qu'elle est toujours dans le même registre depuis maintenant 10-15 ans, hein, donc il n'y a pas de raison que ça change. Monique Olivier étant témoin assisté dans l'affaire Mouzin, elle n'a pas participé à ces faits. Ce qu'on attend d'elle, c'est que par rapport à la connaissance de Michel Fourniret et le vécu qu'elle a eu avec lui, elle puisse donner des éléments d'information que le juge d'instruction a pu découvrir dans son enquête et qu'elle puisse les confirmer ou les infirmer. Les retours d'expertise ADN sont parvenus à l'instruction et je pense qu'on va parler de ça.
La juge Sabine Kéris devrait aussi l'interroger sur la disparition de Lydie Loger. C'était dans l'Orne en 1993. Une enquête qu'elle a reprise en juin dernier.
Corinne Audouin, l'île de la Réunion sous haute surveillance avec le naufrage du pétrolier japonais à l'île Maurice. La France redoute l'arrivée de boulettes sur les côtes réunionnaises. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu est sur place. Football, le FC Séville s'est qualifié pour sa 4e finale de Ligue Europa. Les Espagnols ont sorti Manchester hier soir. Manchester United de buts à 1.
Alors le football qui à partir d'aujourd'hui, Laurence, a une nouvelle chaîne.
Mediapro lance Téléfoot, une chaîne 100% football qui commencera donc à émettre ce lundi et qui retransmettra dès vendredi les matchs de la future saison de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que des rencontres de Coupe d'Europe. Le groupe espagnol vise les 3,5 millions d'abonnés en France. Cédric Guillou.
Mediapro, via sa chaîne Téléfoot, va retransmettre en quasi-exclusivité le championnat français de football pour un montant record de 780 millions d'euros par saison. 8 matchs de Ligue 1 par journée, du vendredi 21h au dimanche 21h. La chaîne codiffusera également la Ligue des Champions et la Ligue Europa à partir du mois d'octobre. Le problème pour le moment pour les fans de foot, c'est que Mediapro n'est pas disponible partout. La chaîne sino-espagnole a trouvé un accord avec la plateforme Netflix, avec SFR et un autre avec Bouygues Télécom, mais seulement à partir du 26 août pour ce dernier, c'est-à-dire après la reprise des championnats. Mediapro, qui propose une offre de base avec engagement à 25€ par mois et sans engagement à près de 30€ par mois, promet du changement dans la retransmission des matchs, de nouvelles caméras avec de nouveaux angles de vision, afin, dit la chaîne, d'apporter une totale immersion dans le jeu aux spectateurs.
Cédric Guillou.
Merci Laurence.